France Culture.
Le journal Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir Quentin, bonsoir à tous. 69 millions d'habitants en France, mais le nombre de décès est désormais supérieur à celui des naissances. Le taux de fécondité est aussi en baisse. Dans un instant, nous reviendrons sur ce tournant majeur pour la démographie française. Marine Le Pen à nouveau devant les juges pour son procès en appel. La patronne des députés RN espère faire tomber l'inéligibilité pour pouvoir se présenter à l'Élysée. Sa ligne de défense semble avoir évolué. Nous serons au palais de justice de Paris dans ce journal. Le gouvernement promet une loi d'urgence aux agriculteurs. C'est la réponse du Premier ministre aux syndicats agricoles qui ont à nouveau manifesté aujourd'hui à Paris. Donald Trump encourage les manifestants iraniens à poursuivre leur mobilisation contre le régime des Mollahs. L'aide américaine arrive, affirme le président, sans rentrer dans le détail de cette aide. La France gagne des habitants, mais sa démographie décline. C'est tout le paradoxe du bilan 2025 présenté ce matin par l'INSEE. Notre pays comptait l'an dernier plus de 69 millions d'habitants, mais pour la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu davantage de décès que de naissances. Le solde naturel est devenu légèrement négatif à moins 6 000. Autre chiffre préoccupant, le taux de fécondité est tombé en 2025 à 1,56 enfants par femme. Estelle Camérère, bonsoir.
Bonsoir.
Pendant longtemps, la France s'est distinguée en Europe par son dynamisme démographique. Cette époque, Estelle, semble aujourd'hui révolue.
Et oui, l'année passée, outre la France, seuls 5 pays européens affichaient encore un solde naturel de population positif, comme l'Irlande et la Suède. Toutes les autres nations affichaient un solde négatif. Des tendances attendues, mais qui arrivent plus rapidement que prévu. En France, l'INSEE observe une chute des naissances de 24% par rapport à 2010, considérée comme l'année du dernier point haut des naissances dans le pays. La baisse des naissances est due au vieillissement des générations en âge de procréer. Du côté des plus jeunes, la majorité souhaite avoir des enfants un jour, mais moins qu'avant pour leur offrir un meilleur avenir, explique Gilles Pison, démographe et conseiller de la Direction pour la communication scientifique à l'INED, l'Institut national d'études démographiques.
C'est finalement à l'origine de ce mouvement de baisse de la fécondité partout sur la planète. Alors, se rajoute dans les pays les plus avancés, où les femmes font des études longues, et les femmes travaillent, ou en tout cas elles souhaitent travailler, et se trouve la question de comment concilier le travail et la famille.
Aujourd'hui, la population française est aussi portée par le solde migratoire, donc plus d'entrées que de sorties sur le territoire, comme dans toute l'Europe.
L'INSEE estime le solde migratoire pour 2025 à 176 000. Et donc cet excédent migratoire, il plus que compense l'excédent des décès, et ce devrait être le cas encore pendant plusieurs années, voire 10 à 20 ans.
Mais Gilles Pison précise aussi que les pays qui souhaitent maintenir leur population et ne pas perdre en main-d'œuvre devront se rendre plus attractifs pour attirer les profils recherchés dans l'immigration.
Estelle Camérère, merci. C'est un procès qui passionne la presse internationale, présent en nombre au palais de justice de Paris sur l'île de la Cité. Depuis cet après-midi, Marine Le Pen joue sa candidature à l'Élysée devant la cour d'appel. Condamnée en première instance dans l'affaire des assistants parlementaires européens du Front National, la patronne des députés RN est pour l'instant inéligible pour 5 ans en vertu de l'exécution provisoire du jugement. Le tribunal correctionnel l'avait reconnue coupable de détournement de fonds publics qui lui avait infligé 4 ans de prison, dont 2 en ferme, aménageables sous bracelet électronique. L'enjeu pour Marine Le Pen dans ce deuxième procès, c'est à minima d'obtenir la levée de cette inéligibilité qui l'empêche de se présenter à la présidentielle de l'an prochain. Bonsoir Anne Fauquemberg.
Bonsoir.
Vous êtes en direct de la cour d'appel de Paris pour cette première après-midi. Anne, l'ambiance était à la sobriété et à la concentration dans ce décor grandiose de la première chambre du palais de justice de Paris.
Oui, les prévenus, dont Marine Le Pen, avaient pris place en début d'après-midi dans cette grande salle aux dorures et lustres imposants avec un plafond peint où l'on retrouve les symboles de la justice. Une salle qui abritait la Cour des comptes lors de l'Ancien Régime, puisque nous sommes ici, vous l'avez dit, dans le palais de justice historique de la ville de Paris sur l'île de la Cité. La présidente, Michèle Agy, commence donc par installer les 10 prévenus en ligne au pied de l'estrade où se situent les magistrats. Ils sont un peu serrés. Elle les appelle un à un pour qu'ils se présentent. Puis la magistrate se lance dans la très longue lecture du dossier et judiciaire. Elle rappelle le signalement à l'origine de la procédure, Martin Schulz, alors président du Parlement européen, ayant reçu des informations indiquant que certains assistants parlementaires du FN figuraient aussi sur l'organigramme du parti, avec des fonctions précises. Elle poursuit sur l'enquête de l'OLAF, l'Office européen de lutte antifraude, qui conclut qu'une dizaine d'entre eux travaillaient en fait au siège du parti. De sa voix posée, la magistrate évoque aussi... Elle évoque aussi les nombreux témoignages qui permettent de soupçonner un système ayant permis de détourner plusieurs millions d'euros entre 2004 et 2016. Une lecture de plus de 3 heures qui se termine sur un moment clé quand elle demande à chacun des prévenus d'expliquer les raisons de leur procédure en appel. Marine Le Pen esquisse alors sa stratégie de défense. Nous n'avions aucun sentiment d'avoir commis le moindre délit. Le Parlement européen n'a pas joué son rôle d'alerte. Nous n'avons jamais rien dissimulé et c'est cela que je viendrai exposer devant la Cour.
Anne Fauquemberg en direct du Palais de Justice de Paris avec les moyens techniques de Gilles Gallinaro. Ce procès en appel de Marine Le Pen et des autres prévenus doit se tenir jusqu'au 12 février prochain. Le jugement sera ensuite mis en délibéré. Face à la colère agricole qui ne faiblit pas, le gouvernement annonce ce soir de nouvelles mesures de soutien. Il s'agit de répondre aux centaines d'agriculteurs à nouveau présents à Paris aujourd'hui avec quelques dizaines de tracteurs. Ils répondaient à l'appel de la FNSEA. De son côté, la Confédération paysanne a mené une action au ministère de l'Agriculture pour obtenir un nouveau protocole sanitaire contre la dermatose bovine. Catherine Pétillon, bonsoir.
Bonsoir.
Le gouvernement promet notamment un projet de loi d'urgence pour l'agriculture.
Oui, c'est bien là le signe de la pression politique que les agriculteurs parviennent à maintenir. Cette loi d'urgence agricole autour de la politique de l'eau, de la prédation du loup et des moyens de production devra être élaborée à toute vitesse. Le Premier ministre a demandé à Annie Genevard de la préparer pour le Salon de l'Agriculture, c'est-à-dire d'ici un mois environ, pour une présentation au Conseil des ministres en mars et un examen avant l'été. D'ici là, une série de mesures ont été annoncées qui répondent point par point aux demandes de la FNSEA, à savoir un moratoire jusqu'à cette loi sur toutes les décisions concernant la politique de l'eau. Le Premier ministre demande au préfet de lui remonter directement les projets hydrauliques agricoles bloqués pour, je cite, « en libérer un maximum ». On parle là des projets de bassines ou de captage d'eau au cœur de nombreux conflits d'usage, surtout dans les zones les plus exposées à la sécheresse. Le Premier ministre annonce la suspension jusqu'en septembre des textes fixant les volumes d'eau qui peuvent être prélevés pour garantir la prise en compte réelle des contraintes agricoles. Sébastien Lecornu demande aussi à la Commission européenne de faire évoluer le cadre concernant les nitrates en prenant en compte, je cite, l'agronomie et le bon sens, tout en promettant en France des possibilités de dérogation aux mesures actuelles, mesures destinées, rappelons-le, à limiter la pollution. Le Premier ministre propose enfin un dispositif renforcé d'épargne de précaution pour faire face aux chocs économique, dispositif qui sera déposé par voie d'amendement au budget.
Alors le gouvernement espère ainsi calmer les revendications avant le salon de l'agriculture qui se tient en février. Salon, Catherine, qui se tiendra cette année sans bovins.
Oui, pas de vaches dans les allées du parc des expositions, cela n'était jamais arrivé depuis la création. Avec la dermatose nodulaire, maladie très contagieuse pour les bovins, les agriculteurs veulent éviter de prendre des risques, d'autant plus que le protocole prévoit l'abattage de tout le troupeau si un cas est détecté. Le salon de l'agriculture a tenté ces derniers jours de convaincre les différents organismes de sélection d'envoyer quelques animaux en proposant des protocoles renforcés pour obtenir une présence même symbolique. Sans succès, a annoncé ce matin le président du salon, Jérôme Despé.
C'est une décision qui est historique pour le salon de l'agriculture, qui nous laisse profondément attristés. C'est un coup dur pour le salon, culturellement et historiquement, lié à l'élevage bovin.
Et voir les animaux, c'est aussi une importante motivation pour les visiteurs. Leur absence pourrait aussi avoir une incidence forte sur la fréquentation du salon, lequel réfléchit à la manière de faire évoluer sa programmation d'ici là.
Explication signée Catherine Pétillon. Comment mieux encadrer les influenceurs qui fédèrent des communautés de centaines de milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux? C'est tout l'enjeu de la commission d'enquête parlementaire qui a présenté ce matin son rapport après avoir auditionné 170 acteurs clés du numérique. La commission a identifié plusieurs dérives, comme l'augmentation des discours masculinistes en ligne ou le fléau des achats compulsifs poussés entre autres par TikTok Shop ou bien les jeux vidéo. Les deux auteurs du rapport sont le député socialiste Arthur Delaporte et l'ancien député Renaissance Stéphane Vojetta. Ils veulent donner à l'État les moyens de mieux réguler le secteur des influenceurs, Pierre Roper.
La loi influenceur de 2023 est déjà dépassée par certaines pratiques en ligne. De plus en plus d'outils de captation de l'attention sont désormais utilisés à des fins de captation financière à travers les jeux vidéo ou encore TikTok par exemple. Le TikTok Shop notamment pourrait faire l'objet d'une suspension temporaire, explique le député PS Arthur Delaporte, co-auteur de ce rapport.
On observe des incitations à la promotion qui sont sur la base de mensonges en fait. On va dire à des utilisateurs, si vous allez sur TikTok Shop faire de la pub, vous allez gagner tant par mois. Ce qui est évidemment totalement illégal.
Autre source d'inquiétude, la recrudescence de contenu masculiniste. Un nouveau délit pourrait être créé afin de réprimer la promotion de cette idéologie, mais aussi celle de comportements violents, comme ceux mis en cause dans la mort du streamer Jean Portmanov en août dernier. Il n'est évidemment pas question que de sanctionner dans ce rapport, mais aussi de structurer la filière de la création en ligne. Parmi les pistes envisagées, la mise en place d'une fédération de l'influence qui regrouperait les créateurs du secteur. Il est également question de labelliser certains créateurs de contenu d'information et de les accompagner en envisageant de réformer les critères d'attribution des aides à la presse. Globalement, le rapport pointe surtout le manque de moyens humains comme technologiques pour les régulateurs du numérique et la nécessité pour le gouvernement de mieux anticiper les pratiques mouvantes en ligne, assure Arthur Delaporte.
On a la possibilité pour certaines administrations de faire ce qu'on appelle du scrapping, donc ça veut dire de la collecte de données automatisées, mais ce n'est pas généralisé. Donc voilà, il faut renforcer ces outils procéduraux, les sécuriser aussi parce que ça doit toujours être protecteur des libertés fondamentales.
Autre outil, envisager la création d'un portail unique de signalement des débordements sur Internet, présente ce matin la ministre déléguée chargée de l'intelligence artificielle et du numérique, Anne Le Hénanff, a déjà annoncé son intention de créer ce dispositif et de mettre en application plusieurs des propositions de ce rapport.
S'agit-il d'un tournant dans la politique iranienne? Donald Trump, le président américain, encourage désormais les manifestants mobilisés depuis le 28 décembre à renverser le régime des Mollahs. Sur son réseau Truth Social, il a même promis une aide américaine. On retrouve à Washington Franck Madvon, bonsoir.
Bonsoir Stanislas, bonsoir à tous.
Franck, Donald Trump précise que cette aide va arriver en Iran.
Oui, cette fois, le soutien aux manifestants est très explicite et la menace visant le régime est clairement formulée dans un message donc sur son réseau Truth Social. Donald Trump s'adresse aux patriotes iraniens avec l'injonction en majuscule « Continuez à manifester, prenez le contrôle de vos institutions, les meurtriers et agresseurs payeront le prix fort », assure le président américain qui précise avoir annulé toutes ses réunions avec les responsables iraniens jusqu'à ce que s'arrêtent les meurtres. À vrai dire, aucun rendez-vous officiel n'était prévu, mais Donald Trump semble fermer la porte à la diplomatie pour le moment, en tout cas à son niveau, et il ajoute en effet à son message que de l'aide est en route, on ne sait pas de quelle nature. Il conclut par l'acronyme MIGA pour Make Iran Great Again.
Alors, cela signifie-t-il, Franck, que l'option militaire se précise ?
Alors, il est trop tôt pour le dire, mais la presse américaine bruise de rumeurs à ce sujet. Sous couvert d'anonymat, des membres de l'administration affirment que Donald Trump serait plutôt favorable à une option militaire. Certains de ses conseillers tentent de l'en dissuader. C'est notamment le cas du vice-président J.D. Vance, connu pour être moins enclin à recourir à la force au-delà des frontières américaines que le président. La diplomatie n'a toutefois pas complètement baissé les bras. Ces derniers jours, Steve Witkoff, conseiller de Trump au Moyen-Orient, a échangé avec le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi. Une rencontre serait envisagée et d'autres options sont sur la table. Des sanctions économiques notamment. Donald Trump a par exemple menacé hier les partenaires commerciaux de l'Iran de 25% de droits de douane supplémentaires. La piste d'une cyberattaque est aussi explorée. Plusieurs plans doivent en fait être présentés à Donald Trump aujourd'hui même. Il ne fait guère de doute que l'hypothèse de frappe militaire ciblée sera discutée.
Franck Madvon, correspondant de France Culture à Washington. Selon l'ONG Iran Human Rights, la répression a fait au moins 648 morts depuis le début du mouvement. Bilan malheureusement très provisoire car certaines sources évoquent des milliers de manifestants tués par le régime. Et l'une des méthodes des forces de l'ordre iraniennes consiste à viser le visage des contestataires pour leur faire perdre la vue. Isabelle Labéry, cette violence n'est pas nouvelle en Iran. Elle trouve un écho dans l'histoire du pays.
Pendant le mouvement Femmes, Vie, Liberté il y a 3 ans, les ophtalmologistes iraniens avaient lancé un appel à l'aide. Leurs hôpitaux étaient submergés de manifestants gravement blessés aux yeux, section du nerf optique, lésion de la rétine, iris perforée. La faute aux projectiles en caoutchouc mais aussi aux balles métalliques à pointe creuse volontairement tirées vers le visage des contestataires par les forces anti-émeutes. Les mêmes témoignages remontent aujourd'hui. Fariba Ashtroudi, écrivaine, préside l'association Mohsen Ashtroudi qui soutient les jeunes Iraniens dans leur lutte pour la démocratie.
Il recommence pour que ça soit absolument visible, pour dire « vous osez, et ben nous aussi on ose continuer à vous rendre aveugle ». Et ça, ça vient directement des potentats jusqu'aux boutistes des gardiens de la Révolution et de leurs affidés. Avant tout, il faut dire que si le guide suprême n'était pas d'accord avec ces méthodes, il suffirait qu'il fasse une ordonnance religieuse comme il en fait beaucoup. Donc, il y a effectivement des consignes, c'est ce que me disent les jeunes en Iran, c'est de viser l'œil, de viser la vue et d'instaurer la terreur totale.
Le régime des Mollahs prolonge une symbolique ancienne. Au XVIIe siècle, sous la dynastie des Safavides, il était courant de rendre borgne ou aveugle un rival politique pour l'écarter du jeu.
Isabelle Labéry de la rédaction internationale de Radio France. 5 jours après la mort d'une mère de famille à Minneapolis, aux États-Unis, tuée par l'ICE, la police américaine de l'immigration, l'ONU réclame une enquête rapide et indépendante sur le drame. Les Nations Unies rappellent que l'usage de la force létale n'est autorisé qu'en dernier recours. L'administration Trump continue à défendre la thèse de la légitime défense. Renée Nicole Good, la victime, aurait constitué une menace, un discours dénoncé par l'opposition démocrate dans le Minnesota comme à Washington, Olivier Poujade.
C'est probablement la première fois depuis sa défaite que le camp démocrate semble à ce point déterminé. La mort de Renée Good ne peut pas, ne doit pas rester sans réponse pour les élus du Congrès. L'ensemble de l'opposition est même accompagné d'une poignée de députés républicains. Ils réclament toute une série de mesures, mesures disciplinaires, avec l'appel à la destitution de Christine Noem, la secrétaire d'État à la sécurité intérieure. Ces élus exigent également qu'une enquête complète, précise et indépendante soit menée, que les actions de l'ICE, qui semble agir en toute impunité depuis plus d'un an, que ces agents recrutés à la chaîne soient soumis à un cadre législatif plus strict. Certains élus appellent même aujourd'hui à la dissolution de cette agence fédérale de l'immigration et des douanes, une colère évidente derrière laquelle les démocrates voient un moment propice pour s'extraire de leur apathie. La mort de Renée Good doit servir de marqueur et sonner l'heure de la contre-offensive politique. Face à eux, une administration impassible qui défend sans aucun remords l'auteur du coup de feu et accuse ces groupes de citoyens organisés qui entravent les agents fédéraux dans l'exercice de leurs fonctions.
Olivier Poujade, correspondant aux États-Unis. 3 mois après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu à Gaza, la situation humanitaire reste dramatique dans l'enclave palestinienne. Les pluies torrentielles et maintenant la chute des températures aggravent le sort des dizaines de milliers de Palestiniens déplacés dans des abris précaires. Ce week-end, un nourrisson de 7 jours est mort de froid à Deir el-Bala, faute de chauffage. Selon l'UNICEF, depuis le début de l'hiver, le froid a tué au moins 6 enfants à Gaza. Alice Froussard nous appelle de Jérusalem.
À chaque fois que la pluie revient, c'est la même chose. Dans la partie centrale de Gaza, à Deir el-Bala, où Momar éponge, sèche, rien n'y fait, les couvertures sont trempées, toute la famille a les pieds dans l'eau. La nuit dernière, nous étions complètement trempés, moi et mes enfants. Franchement, la situation est tragique. Et ma fille a 1 an, mon fils seulement 1 mois. Elle le précise, elle a survécu à 2 ans de guerre, a même donné naissance à ses enfants. Mais cette fois, elle a peur d'un hiver tragique, d'un enchaînement de tempêtes comme c'est le cas maintenant. Hanine, une autre mère de famille à Gaza, se sent impuissante elle aussi. Comment protéger ses enfants quand les tentes ne protègent ni du froid ni de la pluie?
Je ne vois pas ce qu'on peut faire de plus, où est-ce qu'on pourrait aller se réfugier? Nos matelas sont trempés, mais on n'a aucune autre option.
Ce n'est pas une catastrophe climatique, c'est une urgence humanitaire dont l'origine est humaine, a déclaré Mahmoud Bassam, le porte-parole de la défense civile, car malgré le cessez-le-feu, Israël continue de limiter l'entrée des tentes, bloque l'arrivée des mobilhomes, des matériaux d'abri et de construction. Les tentes sont déchirées, les maisons fissurées, ajoute-t-il, laissant des centaines de milliers de personnes dans des conditions extrêmement précaires, sans sécurité ni dignité.
Alice Froussard depuis Jérusalem. L'historien français Vincent Lemire, spécialiste du conflit israélo-palestinien, est finalement autorisé à se rendre en Israël. Dans un premier temps, les autorités israéliennes lui avaient interdit l'accès à leur pays en raison de ses critiques répétées de l'État hébreu. Il avait notamment réclamé des sanctions contre Israël à cause du désastre humanitaire à Gaza. Hier soir, Vincent Lemire a reçu un mail des autorités israéliennes lui annonçant qu'à la suite d'un réexamen de son dossier, les restrictions le visant ont été levées sans plus de précision. Un mot de la météo demain. La douceur s'installe sur tout le pays. Un ciel couvert et faiblement pluvieux de la Bretagne aux frontières du Nord. Ailleurs, des éclaircies. Demain matin, les températures minimales iront de 1 à 12 degrés. L'après-midi, il fera entre 9 et 14 degrés en général. Jusqu'à 17 degrés sur le Pays Basque et le pourtour méditerranéen. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Nina Malray à la technique, Alexandre Dang.